Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous les amis qui nous rejoignent et je vous invite tout à nouveau à ouvrir une page de notre Bible et nous allons nous livrer à une méditation. Et cette méditation, elle se situe et nous allons donc faire la lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 15. Nous reprendrons ultérieurement un autre passage que nous irons chercher dans l'Ancien Testament. Alors commençons par Apocalypse, chapitre 3 et au verset 15 et 16. Alors voilà ce que ce texte nous rapporte. Il est dit ceci, c'est Dieu qui parle, c'est l'Esprit de Jésus qui parle et qui avertit les églises, en l'occurrence l'église de Laodicée, qui est une église qui faisait partie des temps premiers. Alors, il est dit ceci, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, et que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux. » Voilà pour notre première lecture. Nous allons poursuivre en faisant une deuxième, et je vous ai annoncé donc une texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10 et au verset 9. Voilà ce que nous avons sous les yeux. « Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. » Et le verset qui nous intéresse particulièrement, « S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès, » nous dit ce passage. Alors, j'aimerais vous parler ce matin de la foi émoussée. Et nous allons expliciter naturellement ce langage et ces différents mots. C'est un avertissement à l'adresse de tous ceux qui se trouvent dans un état spirituel. Et comme cela est mentionné dans notre livre de l'Apocalypse, le plus triste, sinon le plus dangereux, c'est la tiédeur. Voilà. Dieu attend de ses enfants, des chrétiens, un état qui est exposé à travers la tiédeur. Être froid, nous dit le texte, est la condition de l'homme naturel, en d'autres termes, étranger, pourrait le traduire de cette manière, qui est étranger, qui est indifférent à la vie supérieure de l'esprit. Il est naturellement question d'un homme qui est mort, mais Dieu, et ça c'est notre espérance, c'est la grande espérance de toute la Bible, mais Dieu donne la vie aux morts. Voilà, et on se comprend dans ce que nous voulons dire. C'est une sorte de résurrection qu'on nomme la nouvelle naissance. C'est-à-dire, et c'est bien explicité dans les épîtres du Nouveau Testament, c'est la vie nouvelle qui est animé par l'Esprit de Dieu en nous, non seulement un accompagnement, non seulement une présence, mais dans notre vie la plus intime. Alors ça, c'est naturellement être froid. Ensuite, un autre état, c'est être bouillant. Alors naturellement, eh bien, on devine ce que peut être cet état. C'est être pénétré tout entier de l'amour de Dieu en soi et du Saint-Esprit. Et c'est un feu, en quelque sorte, qui donne la ferveur, et j'y ajouterai la ferveur non seulement de l'âme, mais la ferveur de l'esprit. Et c'est ce que nous rappelle naturellement l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à son ami Timothée, quand il dira « ranime, allume », nous en parlerons eh bien, en conclusion. Et puis le troisième état, c'est être tiède, nous l'avons déjà évoqué. Eh bien, ça serait tout simplement de connaître l'Évangile, parce qu'on peut en avoir la connaissance intellectuelle, cérébrale, c'est connaître l'Évangile, mais dont le cœur humain, l'esprit, l'âme, la conscience n'a pu être suffisamment gagné pour être arraché, parce qu'il est question finalement, eh bien, autant la nouvelle naissance est une vie qui a été créée par Dieu par son esprit, mais là, eh bien, je précise bien que c'est insuffisamment gagné pour être arraché aux influences et mentalités du monde dans lequel nous vivons, qui est un monde charnel. Et peut-être cela peut choquer de savoir qu'il y a des chrétiens qui sont bouillants. Ça, c'est véritablement eh bien, la chose la plus inconvenable aux yeux de Dieu. Être froid, ben, c'est le monde, hein, tout simplement le monde que l'on appelle pudiquement chez nous inconverti. Mais chez un chrétien, c'est quelque chose qui est problématique. Donc être tiède, certes de nom, mais mondain. Il est chrétien de nom, mais mondain. C'est-à-dire que les cultures, la culture, les habitudes, les actions et réactions sont irrégénérées. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être finalement, eh bien, à un moment donné, une découverte enthousiaste, une découverte d'une vie nouvelle, d'une joie peut-être, et puis de tout ce qui l'accompagne, mais il n'y a pas de suite d'une transformation de vie, en quelque sorte. Alors, les caractéristiques propres, eh bien, c'est que cet homme-là, ce chrétien tiède, ne possède ni la force, ni la volonté de la foi que je nommerai, que j'ajouterai, j'y ajouterai, la foi conviction, c'est-à-dire des certitudes, une assurance, eh bien là, quelque chose de bien ancré, bien enraciné. Et cet homme, donc, appelons-le si on veut du nom de chrétien, chrétien mondain en quelque sorte, mais il a peu de conscience du sens, de la signification et des activités qu'implique sa profession de foi. Il est chrétien tout simplement d'apparence, de nom. Donc, il ne peut pas faire de progrès, puisque nous est demandé de marcher de progrès en progrès, et surtout, pas le sentiment de ce qui lui manque. C'est un état eh bien, stationnaire. Nous l'avons lu dans le texte, nous y reviendrons tout à l'heure. Il eh bien, prétend tout simplement, nous l'avons dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es pauvre et que tu es aveugle et nu. Et finalement, il s'en contente. Il est satisfait de son état parce qu'il pense que porter un nom, porter le nom de chrétien, connaître finalement Jésus, avoir lu la Bible je ne sais combien de fois, peut-être, eh bien, il passait peut-être même sa vie, mais ce n'est pas ça ce qui fait finalement, eh bien là, un chrétien bouillant pour le Seigneur. Et nous voyons que cet état, donc nous l'avons dit, c'est quelque part, eh bien, le manque de ce sentiment, c'est un état stationnaire, c'est une forme de léthargie morale et spirituelle, et il possède un jugement quand même assez complaisant, assez tolérant pour ce qui n'est pas bien et bon, vrai et juste. Et il vit dans une illusion, nous l'avons souligné, hein, tu ne sais pas que tu es, et d'un environnement, illusion d'un environnement qu'il ne perçoit pas, ou qu'il ne perçoit pas comme perverti, mauvais, et un environnement qui est perdu et qui l'entraîne aussi à la perdition. La principale raison de la tiédeur spirituelle, c'est l'orgueil. Oui, Il ne veut pas se remettre en cause. Il pense qu'il est bien, il est juste. Il est un peu à la manière de tous ces hommes qui vivaient dans la génération de Jésus et ceux d'avant, naturellement, dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'est ce que l'on appelle les pharisiens. Ces hommes, au demeurant, religieux, juifs, pieux, etc., et tout ce que l'on peut y ajouter. Mais il y avait une chose, c'est qu'ils ne voulaient pas s'abaisser. Ils pensaient que leur situation, que leur statut de juif, d'israélite, eh bien, suffisait. Et Jésus a eu à lutter contre cet orgueil, hein, et qui le porte à se croire riche, suffisant, et n'avoir besoin de rien, n'avoir surtout pas besoin, finalement, eh bien là, de Dieu, et voulant peut-être même aussi aider les autres, alors que, quelque part, hein, c'est un malade qui s'ignore. Hein. Et nous voyons, ce sont des malades qui ne connaissent pas la gravité de leur mot. Et naturellement, avec toutes sortes de satisfactions d'eux-mêmes, satisfaction matérielle, satisfaction immédiate. Alors voilà pour cette présentation. Et puis, il y a naturellement de ce drame, encore, eh bien là, cela voile les facultés du tiède, c'est son irréalisme sur sa pauvreté, nous l'avons dit, sur son indigence spirituelle. Et il en recherche, et est-il, plutôt, je rectifie ma, parce que c'est une question, est-il en recherche d'un remède? Veut-il changer? Sent-il sa peine, sa misère, sa pauvreté? A-t-il besoin d'une autre dimension dans sa vie? Alors, il y a trois propositions. Naturellement, comme nous l'avons vu il y a quelques instants, puisque nous avions défini sur trois états, être froid, être bouillant et être tiède. Et là, eh bien, Dieu va répondre, et il va répondre par trois données qui sont à prendre en considération. Il est question de l'or, qui est éprouvé par le feu, c'est-à-dire une foi vivante, fondée sur la parole de Dieu uniquement. Voilà, ça c'est de l'or. La foi est comparée dans la Bible, je crois dans une des dernières épîtres, je pense que ça doit être Pierre, où il est dit que la foi est éprouvée par le feu, c'est-à-dire qu'elle est mise à l'épreuve, et cette foi se caractérise par ses bases, dont elle puise l'autorité dans la parole de Dieu uniquement, et non sur une impression vague de croyance religieuse. Voilà, c'est beaucoup de gens se méprennent sur la chose. Et ils se disent, eh bien, parce que je vais à l'église, parce que je vais au temple, parce que je crois en Dieu à ma manière, parce que je me suis fait un Dieu moi-même, alors ça suffit. Et ça, c'est véritablement la paille. Hein, c'est quelque chose qui va brûler, quelque chose qui n'est pas durable. En tous les cas, voilà ce que dit l'heure éprouvée par le feu. Et c'est véritablement, cette heure, c'est au-delà d'une vague croyance que nous pouvons avoir héritée et que nous, dans laquelle nous nous confortons et dans laquelle nous nous réfugions. Ça, c'est l'or. Il y a également une proposition qui montre bien, l'indigence, hein, et la pauvreté. C'est que Dieu propose au tiède, des vêtements blancs, c'est-à-dire des vêtements propres. Parce que c'est le prophète Jérémie qui dit « Mais toute votre justice est comme un linge ou comme un vêtement souillé. » C'est ce que nous dit le prophète dans l'Ancien Testament. Un vêtement propre qui typifie la pureté et la sainteté relative aux fruits de l'esprit. Ah, voilà, nous arrivons naturellement à ce qui manque dans bien des vies. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de déclarer, il ne s'agit pas de porter une étiquette, quelle qu'elle soit, mais il s'agit de véritablement avoir les caractéristiques de la personnalité, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui sont en Jésus-Christ et que Dieu nous offre. Donc être revêtu d'un vêtement de pureté, de sainteté, ça ne veut pas dire que nous sommes des saints et que nous sommes parfaits, mais que nous marchons vers. Nous travaillons à notre sanctification, et cela, naturellement, correspond à des fruits de l'esprit. Alors, les fruits de l'esprit, je ne vais pas tous les nommer, mais c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi, c'est la foi également dans le sens fidélité. Hein, c'est beaucoup de choses semblables et qui doit être, eh bien là, la caractéristique de l'homme qui eh bien, veut sortir de sa tiédeur, quoi qu'il en soit. Autant les choses peuvent être présentées comme quelque chose d'extérieur, là c'est profondément intérieur, c'est le caractère et qui révèle une nouveauté de vie. Ça se voit, ça se discerne, les autres, eh bien là, peuvent le remarquer chez nous pour dire, eh bien véritablement, il vit et il vit en chrétien. Et puis il y a le troisième chose, parce que ça touche, donc après l'or offert, après les vêtements blancs dont nous avons parlé, qui a un rapport avec eh bien, une vie nouvelle, eh bien, il y a le colir. Le colir, nous savons très bien ce que cela signifie, c'est un remède, c'est un médicament, on pourrait dire, enfin, voilà, un traitement plutôt, et c'est la guérison des yeux intérieurs. Hein, il ne s'agit pas de porter des verres correcteurs, mais il s'agit finalement eh bien, des yeux intérieurs, le cœur, l'âme, rendant la vue spirituelle et qui ouvre à la connaissance, finalement, d'une vérité qui nous est révélée. Et là, à ce moment-là, ça change tout. Et la vérité révélée, d'abord, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. La vérité révélée, c'est sa parole qui est véritablement la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, ma parole est la vérité. Et nous pouvons eh bien, ajouter ceci, c'est que la tiédeur est simplement une sorte de démission, de refus d'effort, de refus de comprendre, de refus d'écouter, et ainsi de rester dans l'état, tout simplement dans lequel nous sommes. Je rappelle, il y a la froideur, mais lorsque nous laissons à Dieu la capacité de nous transformer, eh bien, de froid, nous pouvons devenir bouillants, c'est-à-dire de mort, nous pouvons ressusciter à une vie spirituelle, nous pouvons vivre de nouveau. Maintenant, la tiédeur, c'est l'état intermédiaire, je le souligne tout à nouveau, où là, eh bien, nous sommes entre les deux et que, quelque part, eh bien, c'est un abandon significatif de la foi. Et nous allons voir très brièvement eh bien, qu'il y a des causes, il y a des remèdes et il y a des solutions, parce que parler de tout cela, eh bien, n'a pour, en effet, sens que dans la mesure où on ne reste pas en l'état, tout simplement, et Dieu pourvoit. Alors, les causes et les raisons, qu'est-ce que cela signifie? C'est être émoussé, c'est-à-dire, on a pu être et on ne l'est plus. Ce qui a perdu son tranchant, son mordant, son effet et son efficacité incisif. C'est cela, être un chrétien, c'est être la lumière du monde et c'est être le sel de la terre. Alors le sel, ce n'est pas le sucre, hein, ça n'a pas tout à fait le même goût et ça n'a pas les mêmes résultats. Mais néanmoins, c'est ça ce que ça veut dire. Donc dans les causes et les raisons, eh bien, en effet, l'homme peut s'émousser, le chrétien peut s'émousser, ou il peut rester tout simplement eh bien, dans l'inefficacité, hein, et il n'a pas d'effet finalement. Et puis il y a naturellement le remède et le traitement. S'il y a naturellement eh bien, là, le verdict, cause et effet, raison, eh bien, il y a naturellement le remède et le traitement. Alors, c'est intéressant de prendre un texte. Maintenant, nous allons aller dans 1 Timothée, ou c'est plutôt 2 Timothée chapitre 16. Et là, nous allons voir un petit peu ce que Paul nous en dit de tout cela. Il dira ceci. Au chapitre 1er, 2 Timothée chapitre 1er et verset 6, et il exhorte son ami Timothée et lui dit ceci. Peut-être avait-il remarqué qu'en effet, eh bien, il avait besoin d'un stimulant, il avait besoin d'un encouragement, il avait besoin peut-être d'une consolation aussi. Alors il dira, c'est pourquoi je t'exhorte, Timothée, à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, en conséquence, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à Jésus, à notre Seigneur, ni à moi-même, souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Alors voilà. Donc, nous avons quelque chose, quelques mots réparateurs nous sont donnés. Il est dit dans différentes traductions, et d'abord, ranime la flamme, rallume comme une bougie qui est près de s'éteindre, un feu qui est près de s'éteindre. Il y a, dans une autre traduction, « maintient en vie le don de Dieu ». Voilà, le don de la grâce, le don de la foi, parce que la foi est un don que nous pouvons demander et que Dieu nous donne gracieusement. Et puis, il y a également les solutions qui nous sont données. Il y a naturellement cause, le remède et les solutions divines. Et nous trouvons aussi dans ces différentes traditions où il est explicité, Dieu, et je le traduis, Dieu n'a pas donné un souffle de peur qui peut être une cause de tiédeur, mais de dynamisme. Dynamisme, il y a puissance dans le mot, parce que le mot grec dynamite, dynamisme, oui, eh bien, c'est véritablement puissance. Il y a véritablement un souffle d'amour, de pondération, comprenons par là la maîtrise de soi, qui fait partie, là, naturellement, des dons spirituels. C'est un esprit, il est ajouté dans un autre texte, c'est un esprit de force, et non de timidité, nous l'avons lu, qui veut dire, ce n'est pas un esprit de lâcheté. Hein, la tiédeur, c'est ça aussi. Ce n'est pas un esprit de défaitiste, de négativisme, mais c'est un esprit d'enthousiasme, parce que le mot enthousiasme en grec veut dire Dieu avec soi, et plus encore, Dieu en nous, en soi. Alors, nous avons naturellement besoin de nous souvenir de cette maxime où il est dit ceci, que rien ne sert de courir et de s'épuiser, il faut, partir à point. Et nous l'avons dit, j'aimerais justement terminer notre bref message aujourd'hui, de pouvoir lire ou relire tout simplement ce passage avec à la clé une petite histoire qui va conclure. Et nous avons lu ce texte tout à l'heure dans Ecclésias chapitre 10 où il est dit ceci. Et si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts car la sagesse à l'avantage de la réussite. Ce qui m'amène maintenant à dire ceci dans cette histoire. Il y a en effet mis en présence deux bûcherons qui se lancèrent un jour un défi afin de savoir lequel d'entre eux était capable d'abattre le plus grand nombre d'arbres en une seule journée. Alors ils sont partis dans la forêt et dès l'aube, le premier se mit à couper les arbres le plus vite possible. À midi, il y avait déjà 13 troncs qui jonchaient le sol, tandis que son ami n'en était qu'à son quatrième. Celui-ci avait passé les deux premières heures de la journée à aiguiser soigneusement le tranchant de sa hache. Parce que, là, il y avait naturellement une concurrence redoutable. Mais, en début d'après-midi, les choses devinrent plus intéressantes. Et là, il y a comme un changement qui va se produire. Le premier bûcheron ralentit considérant son rythme. Peut-être en était-il au moment de l'assiette après le repas de l'arrêt du midi. Alors, il a ralenti son rythme de travail. Le 15e arbre exigea de lui plus d'une heure d'effort, tandis que le second bûcheron se mettait à abattre les arbres beaucoup plus vite que son compagnon. Tout dépendait à présent, et on le comprend naturellement, de la hache dont le tranchant était le mieux aiguisé. Et une hache émoussée peinait, à attaquer le bois des troncs. En fin de journée, le second bûcheron, dont la hache était toujours aiguisée, l'emporta avec une avance confortable. Nous avons besoin de tirer aujourd'hui la leçon de ces petites anecdotes. Hein, et je crois que ça fait partie de ce que je vous ai dit, que rien ne sert de courir et de s'épuiser. Il faut partir à point. Et voilà finalement la morale de l'histoire. Si nous nous démenons jour après jour pour accomplir notre tâche, si nous nous sentons peut-être en fin de journée satisfaits de nos efforts et fiers de notre activité incessante, mais nous avons besoin d'apprendre deux choses. La première, c'est que nous allons finir par nous retrouver émoussés sur le plan moral, mental peut-être, sur le plan spirituel et sur le plan émotionnel. Et puis la deuxième chose, c'est que nous allons découvrir que notre esprit émoussé est plus apte à accomplir que nous allons découvrir, pardon, que notre esprit eh bien, est plus apte à accomplir la tâche que Dieu avait prévue pour nous. Lorsque nous sommes, eh bien là, en effet, dans les bonnes conditions. Alors nous allons découvrir finalement tout cela. Ainsi, je crois que nous avons besoin de comprendre que un esprit qui s'émousse, c'est un esprit qui ne peut pas aller très loin. Que une foi qui s'émousse, c'est une foi qui ne peut pas résister, qui ne peut pas tenir, eh bien là, très longtemps. Et nous avons besoin d'entretenir notre vie spirituelle. Nous avons besoin d'être toujours dans cette fraîcheur de Dieu, dans cette connaissance de la parole de Dieu, dans cette dimension qu'est la prière, parce que la prière, elle affûte nos âmes, elle affûte nos cœurs, elle affûte nos esprits, nos pensées, et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ne nous laissons pas émousser par toutes les choses qui peuvent survenir, les choses de la vie, les choses contrariantes, les choses qui nous vexent, toutes ces choses-là, parce que même si nous voulons véritablement eh bien, faire la démonstration que nous sommes forts, eh bien, nous allons avoir la surprise, enfin, eh bien, de voir que quelque part nous n'avons pas fait grand-chose. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce ce matin, et qu'il vous encourage à aiguiser finalement votre vie spirituelle, à aiguiser votre, tout simplement, eh bien, votre entraînement. Hein, ça, c'est comme dans le sport. Hein. Les compétiteurs, eh bien, avant de pouvoir être là sur la ligne de départ et d'être aussi le premier sur la ligne d'arrivée, eh bien, ils ont véritablement un entraînement. Et nous, nous avons besoin d'être ni froid, nous n'avons pas besoin d'être tiède, c'était le sujet de notre journée, mais que nous avons besoin d'être bouillant. Alors à ce moment-là, eh bien, il va y avoir un basculement dans notre vie, c'est-à-dire notre vie spirituelle, la vie de l'esprit en nous va véritablement être au contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de nos âmes, et puis également de notre corps quelque part. Voilà, c'est une forme de pyramide, ça vient d'en haut et non pas d'en bas. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et puis je vous invite à nous retrouver très prochainement avec un autre message, soit vidéo ou audio, voire même peut-être l'écriture en majuscule que nous trouvons sur Bible Espoir, et que Dieu donc vous bénisse et vous encourage à être bouillant, à être véritablement aiguisé. Merci à tous et à très bientôt.